C'était arrivé 15 jours plus tôt, à la tombée du soir. En compagnie d'une dénommée Dolores, elle était venue fermer le portail et tirer de l'eau du puits pour les corvées du soir. C'était Fortuna qui portait le seau, et de ce fait, elle avait survécu. Alors que Dolores fermait le portail, une créature l'avait soudain rouvert pour s'emparer d'elle et lui arracher la tête d'un coup de dent. Fortuna n'avait rien perdu du spectacle, car la lune du colporteur venait d'apparaître dans le ciel. Bien plus grand qu'un homme, le monstre était pourvu d'écailles et d'une longue queue qui rampait sur le sol comme un serpent. Dans sa tête plate brûlaient des yeux jaunes aux pupilles fendues. Sa gueule était un trou bordé de crocs aussi long que la main. Le sang de Dolores en gouttait lorsqu'il laissa choir son corps convulsif sur les pavés de la cour et courut sur ses pattes torses vers le puits où se tenait Fortuna.
« J'ai voulu m'enfuir. La chose m'a rattrapé. Je ne me souviens plus de rien. »«
Mais moi, je me souviens, » enchaîna Everlyn d'un air sombre. « J'ai entendu crier et je suis sorti avec le fusil. C'était une arme à canon long, un sacré vieux tromblon. Il est chargé de toute éternité, mais nul ne s'en est jamais servi. Si ça se trouve, il aurait pu exploser entre mes mains. » Mais j'ai vu ce monstre déchiqueter le visage de cette pauvre Forti et lui dévorer les chairs. Et j'ai vu autre chose, oui, là. Et à ce moment-là, je n'ai plus pensé au danger. Pas plus que je n'ai pensé que je risquais de la tuer, elle aussi, en ouvrant le feu.
J'aurais encore préféré cela,
dit Fortuna.
Oh, si seulement tu m'avais tué.
Se laissant choir sur une des chaises apportées par ses sœurs, elle se prit la tête entre les mains et se mit à pleurer. À tout le moins de son œil encore visible, l'autre était sûrement crevé.
« Ne dis jamais cela, »
fit Everlyn en lui caressant les cheveux là où ils n'étaient pas recouverts par les bandages.
« Car c'est un blasphème. »«
Cette créature, vous l'avez touchée ? » demandai-je.
« Je crois. » « Notre vieux tromblon tire des chevrotines et j'ai bien l'impression que quelques-unes lui ont arraché des écailles sur son crâne. J'ai vu jaillir un fluide noir et épais comme du goudron. Plus tard, on en a remarqué sur les pavés, mais on a répandu du sable dessus sans y toucher, de crainte d'être empoisonné à son seul contact. La chose a lâché Fortuna et je crois bien qu'elle avait décidé de s'en prendre à moi. » Alors j'ai braqué le tromblon sur elle, tout en sachant pertinemment qu'il devait être rechargé avant de pouvoir tirer une seconde fois. Et j'ai mis la chose au défi de m'attaquer. Je lui ai dit de s'approcher afin que je ne gaspille pas mes munitions.
Elle cracha par terre.
Sans doute que cette saleté possède une cervelle, même quand elle n'a pas forme humaine, car elle a pris ses jambes à son cou. Mais avant de disparaître au coin du mur, elle s'est retournée pour me jeter un dernier regard, comme pour me fixer dans sa mémoire. Eh bien, qu'elle revienne si ça lui chante. Je n'ai plus de munitions pour ce vieux tromblon. Il faut que j'attende le passage d'un marchand, mais j'ai autre chose pour elle.
Everlyn souleva ses jupes et nous vîmes un couteau de boucher dans un étui de cuir fixé à son mollet.
« Qu'elle cherche donc à s'en prendre à Everlyn, fille de Roseanna ?»«
Vous avez vu autre chose, disiez-vous » soufflai-je. Elle me fixa de ses yeux d'un noir de jais, puis se tourna vers les autres femmes.
« Clémy, Brianna, faites le service. Fortuna, tu réciteras l'action de grâce, et tu veilleras à implorer le pardon de Dieu pour ton blasphème, et le remercier d'être encore en vie. »
Everlyn m'agrippa par le coude, me fit franchir le portail et me conduisit près du puits où la malheureuse Fortuna avait été attaquée. Nous étions désormais seuls.
« J'ai vu son braquemar, »
dit-elle à voix basse,
« aussi long et recourbé qu'un cimetière, frémissant et gorgé de ce fluide noir qui lui sert de sang, du moins quand il adopte cette forme, si fait. » Ce monstre avait l'intention de tuer Fortuna comme il avait tué Dolores. Oui, là, pour sûr. Mais il avait aussi l'intention de la foutre. de la foutre pendant qu'elle agonisait.
Jamie et moi avons mangé en compagnie des femmes. Fortuna elle-même avala quelques bouchées, puis nous sommes remontés en selle. Mais avant que nous ne repartions, Everline s'approcha de moi pour me parler en confidence.
« Quand tu auras réglé cette affaire, reviens me voir. J'ai quelque chose pour toi. »
« Et de quoi s'agit-il, Sai ?» Elle fit non de la tête.
« Le moment n'est pas venu d'en parler. Mais une fois que cette horrible créature aura péri, reviens ici. »
Elle s'empara de ma main, la porta à ses lèvres et l'embrassa.
« Je sais qui tu es, car ta mère ne revit-elle pas sur ton visage ? Reviens me voir, Roland, fils de Gabriel. » N'échoue pas dans ta mission. »
Puis elle s'écarta sans me laisser le temps de répondre et franchit le portail pour regagner la cour. La grand-rue de Débaria était large et pavée, mais les pavés s'effritaient pour laisser apparaître l'alios sur lequel ils étaient posés, et ils auraient complètement disparu dans quelques années à peine. Les magasins étaient assez nombreux et, à en juger par les bruits provenant du saloon, la ville était tout sauf assoupie. Mais on ne voyait que quelques chevaux et quelques mules attachés aux poteaux. Dans cette partie du monde, les animaux domestiques étaient vendus ou mangés et ne servaient pas de monture. Une femme sortant d'un magasin général, un panier sous le bras, ouvrit de grands yeux en nous voyant. Elle fit demi-tour et revint accompagnée de plusieurs clients. Quand on arriva devant le bureau du shérif, une petite baraque en planches attenante au bâtiment de pierre abritant la prison, la rue était bordée de badauds, à droite comme à gauche.
« Ils sont venus tuer le garou ?»
demanda la dame au panier.
« Ces deux-là n'ont pas l'air assez costauds pour tuer une bouteille de riz. » lança un homme planté devant le saloon des joyeux compagnons.
Cette saillie fut saluée par des rires et des murmures d'assentiment.
« La ville semble animée, » dit Jamie.
Il mit pied à terre et considéra les 40 ou 50 citoyens qui avaient interrompu leur tâche ou leur plaisir pour assister à notre entrée. « Attends que le soleil soit couché, » dis-je. C'est alors que les créatures comme le garou commencent à marauder, du moins à en croire Vanné. On entra dans le bureau du shérif. Hugh Peavy était un homme ventripotent, pourvu de longs cheveux blancs et d'une moustache tombante. Son visage était ridé par le souci. Il parut soulagé en voyant nos revolvers, un peu moins en découvrant nos mentons imberbes. Après avoir essuyé la plume qui lui servait à écrire, il se leva et nous tendit la main. Ce type n'était pas du genre à porter le poing au front. Une fois les présentations faites, il dit
« Ce n'est pas pour vous déprécier, jeunes gens, mais j'espérais voir Stephen Deschaine en personne, et peut-être Peter McVree. »
« McVree est mort il y a 3 ans, l'informai-je.
Peavy parut choqué. « C'est vrai ? C'était pourtant un as de la gâchette, un tireur hors pair. »
Il a succombé à la fièvre. Et très probablement au poison, mais le shérif de Débaria n'avait pas besoin de le savoir. Quant à Stephen, il est très occupé et il m'a dépêché à sa place. Je suis son fils.
« Ouais, ouais. Votre nom est venu à mes oreilles, ainsi que certains de vos exploits à Méris, car il nous arrive d'avoir quelques nouvelles par ici. On a une ligne Tita et même un Jingjang. »
Il désigna un appareil fixé au mur. Au-dessous se trouvait un écriteau avertissant « Défense de toucher sans permission ».
Jadis, nous parvenions à joindre Gilead, mais ces temps-ci, la portée se limite à Sallywood au sud, au ranch Jefferson au nord et au village dans les collines, Little Débaria. On a même quelques réverbères en état de marche, et pas des lampes à gaz ou au kérosène, non, de vraies lampes à étincelles pour sûr, et les gens croient que ça fera peur aux créatures. »
Soupir.
« Je n'en suis pas si sûr. C'est une sale affaire, jeunes gens. J'ai parfois l'impression que le monde est parti à volo. »
« En effet, dis-je. Mais il est encore temps de retrouver le cap, shérif. »«
Si vous le dites. »
Il s'éclaircit la gorge.
« N'allez pas croire que je vous manque de respect. Je sais qui vous êtes et ce que vous avez fait. Mais on m'a promis un sigle. » Si vous l'avez apporté, j'aimerais que vous me le donniez, car il est très important pour moi. »
J'ouvris mon sac à malice et en sortis l'objet qu'on m'avait confié. Un coffret en bois au couvercle frappé de la marque de mon père. Un dé avec un S à l'intérieur. Lorsque Pivi le prit, je vis un petit sourire creuser des fossettes sous sa moustache. Un sourire de réminiscence qui le rajeunissait de plusieurs années.
« Savez-vous ce qu'il y a dedans ?»«
Non. » On ne m'avait pas demandé de regarder. Pivi ouvrit le coffret, jeta un coup d'œil à l'intérieur, puis se tourna de nouveau vers nous.
« Jadis, alors que je n'étais qu'un jeune adjoint, Stephen Deschênes a pris la tête de la posse que nous avions rassemblée, le shérif et 6 autres gars, afin d'éliminer la bande des crocs. « Vous a-t-il jamais raconté cette histoire ?»
Je fis non de la tête.
« Ce n'étaient pas des garous, certes non, mais ils étaient sacrément dangereux. Ils écumaient toute la région, la ville, mais aussi les ranchs isolés. Sans parler des trains, si jamais il leur semblait bon à piller. Mais leur principale activité, c'était le kidnapping avec demande de rançon. Un crime de lâche, pour sûr. Un des préférés de Farson, me dit-on. Mais qui rapporte gros. Votre pas est arrivé en ville le lendemain du jour où ils ont enlevé l'épouse d'un rancher, Belinda Dolin. Son mari nous a appelés par Jing Jiang dès qu'il a pu se défaire de ses liens. Les crocs ignoraient tout du Jing Jiang et ce fut leur perte. Certes, il était heureux qu'un pistolero fasse sa ronde dans cette partie du monde. « En ce temps-là, ils avaient le chic pour se trouver là où on avait besoin d'eux. »
Il nous fixa du regard.
« Peut-être que ça n'a pas changé. Bref, on a débarqué au ranch alors que la piste était encore fraîche. On aurait pu la perdre en maints endroits. Il y a beaucoup d'alios ici, comme vous l'avez sans doute remarqué. Mais votre père avait des yeux prodigieux, plus acérés que ceux d'un faucon, voire d'un aigle. »
Je connaissais bien les talents de pisteur de mon père, et je savais que ce récit n'avait sans doute aucun rapport avec notre mission et que j'aurais dû dire au shérif d'en venir au fait. Mais jamais mon père ne parlait de sa jeunesse, et j'avais envie d'entendre cette histoire. J'en salivais d'avance. Et il apparut par la suite qu'elle avait bien un lien avec notre mission à Débaria.
La piste se dirigeait vers les mines, que les gens du coin appellent les maisons à sel. En ce temps-là, on avait cessé de les exploiter. C'était avant qu'on découvre la nouvelle couche.
« Couche ?» répéta Jamie. « Le gisement de sel, » expliquai-je.
« Si fait, comme vous dites. Mais la mine était abandonnée à ce moment-là, et c'était un repère idéal pour ces salopards de crocs. » Une fois sortie de la plaine, la piste gagnait un plateau rocheux avant de déboucher sur le pur d'en bas, c'est-à-dire la prairie qui se trouve en contrebas des maisons à sel. C'est là qu'un berger a été tué récemment par quelque chose qui ressemblait à...
« Un loup, dis-je. Nous le savons. Continuez. »
« Vous êtes bien informé, hein ?» Eh ben tant mieux. Où en étais-je? Ah oui, ces fameux rochers, en bûche arroyo, comme on dit maintenant. Sauf que c'est pas un arroyo, mais ça sonne bien, je suppose. C'est là qu'aboutissait la piste. Mais Deschênes voulait contourner l'obstacle pour l'aborder par l'est, par le pur d'en haut. Le shérif, il s'appelait P. Anderson, ne voulait rien savoir. Il tenait à en finir avec ses ordures, et sans perdre de temps. Il leur faudrait 3 jours pour arriver au but, affirmait-il, et les crocs risquaient de tuer leur otage et de disparaître dans la nature. Lui, il était bien décidé à foncer, et tout seul s'il le fallait.
Sauf si vous me donnez l'ordre de n'en rien faire au nom de Gilead.
Et qu'il a dit à votre pas.
Il n'en est pas question,
a répondu celui-ci.
Cardébaria est votre domaine, le mien est tout autre.
Et tout le monde a suivi le shérif, sauf moi. Je suis resté avec votre pas. Avant de partir, le shérif Anderson s'est tourné vers moi pour me dire
« J'espère qu'on embauche dans les ranchs, Guy, parce que l'étoile en fer blanc, c'est fini pour toi. T'es viré. »
Ce sont les dernières paroles qu'il m'adressa. Il s'enfuit avec ses hommes. Stephen de Gilead s'accroupit et je l'imitais. Au bout d'une demi-heure de silence, voire un peu plus, je lui dis « Je croyais qu'on allait faire le tour, à moins que vous ne m'ayez congédié vous aussi. »
« Non, il ne m'appartient pas de vous congédier, shérif adjoint. »«
Et qu'est-ce qu'on attend alors ?»«
Des coups de feu. »«
Et on les a entendus 5 minutes plus tard, ainsi que des cris. »« Ça n'a pas été long. Les crocs nous avaient vus venir. » Le reflet du soleil sur un éperon ou une boucle de sel, il n'en fallait pas plus à Pacro, qui avait un œil de lynx, et il avait rebroussé chemin. Il s'était planqué dans les hauteurs pour ouvrir le feu sur Anderson et ses hommes. Les revolvers étaient plus nombreux en ce temps-là, et ils en avaient leur comptant, plus une ou deux carabines à répétition. Donc, on a fait le grand tour. Ça ne nous a pris que 2 jours, car Stephen Deschênes ne ménageait ni sa monture ni son compagnon. Le 3e jour, on avait dressé le camp au pied de la colline et on s'est levé avant l'aurore. Sans doute l'ignorez-vous, et pourquoi le sauriez-vous? Mais les maisons à sel ne sont autres que des cavernes ouvertes à flanc de falaise. Elles abritaient quantité de familles et pas seulement des mineurs. Il en partait des tunnels qui donnaient accès aux profondeurs de la terre. Mais, comme je vous l'ai dit, elles étaient désertes en ce temps-là. Pourtant, nous avons vu un panache de fumée au-dessus de l'une d'elles, et c'était comme si un aboyeur de cirque nous avait encouragé à entrer sous la tente.
« C'est le moment, »
a dit Stephen,
« car ces 2 dernières nuits... Ils ont dû se croire en sécurité et éclusés comme des pirates. Ils sont sûrement en train de cuver. Vous êtes prêt à vous battre avec moi ?
Oui, pistolero, je suis prêt.
En prononçant ces mots, Peavy bomba le torse comme par réflexe. Il semblait bien plus jeune.
Et nous avons parcouru à pas de loup les 50 derniers yards, et votre pas avait l'arme au poing au cas où nous serions tombés sur une sentinelle. Il y en avait bien une, mais ce n'était qu'un gamin et il dormait à poing fermé. Rengainant son pistolet, le Deschênes l'a assommé avec une pierre et l'a allongé sur le sol. Plus tard, j'ai vu ce gamin monter sur l'échafaud, les larmes aux yeux, de la mer de plein le froc et une corde au cou. Il avait à peine 14 ans, mais lui aussi avait violenté Saïdoline. La femme que la bande avait kidnappée et qui aurait pu être sa grand-mère. Et je n'ai pas pleuré quand il a cessé d'implorer pitié. Qui prend du sel doit le payer, comme le savent tous ceux qui vivent ici. Le pistolero est entré dans la grotte, et je le suivrai de près. Ils étaient tous couchés par terre et ronflés comme des chiens. Par l'enfer, mais c'était des chiens. Et Malina Doulin était ligotée à un poteau. Elle avait ouvert de grands yeux en nous voyant. Stephen Deschênes a pointé le doigt sur elle, puis sur lui, puis il a mis les mains en coupe et a de nouveau pointé le doigt. « N'ayez crainte, voilà ce qu'il voulait dire. Jamais je n'ai oublié la gratitude que j'ai lue dans ses yeux lorsqu'elle a hoché la tête en signe d'assentiment. N'ayez crainte. » C'est le monde où nous avons grandi, jeunes gens, le monde qui a presque disparu aujourd'hui. Puis, le Deschênes a dit,
Réveille-toi, Alan Crowe, à moins que tu ne préfères aller dans la clairière, les yeux clos. Réveillez-vous tous. »
Ce qu'ils firent. Jamais ils n'avaient eu l'intention de les ramener tous vivants. C'eût été de la folie, vous le comprendrez sans peine. Mais ils ne voulaient pas non plus les abattre en plein sommeil. Ils se sont tous réveillés, plus ou moins bien, mais pas pour très longtemps. Steven a dégainé si vite que je n'ai rien vu venir. Il était rapide comme l'éclair. À un instant donné, ces deux revolvers aux crosses en bois de santal reposaient dans leurs étuis. L'instant d'après, ils tiraient en rafale, produisant un vacarme assourdissant dans cet espace confiné. Mais ça ne m'a pas empêché de dégainer moi aussi. J'étais armé d'une vieille pétoire que je tenais de mon grand-père. Mais j'ai quand même descendu deux de ces salopards. Les deux premières personnes que je tuais, mais pas les dernières, hélas. Le seul survivant de cette fusillade n'était autre que le patriarche, Alan Crowe en personne. C'était un vieillard chenu, dont la moitié du visage était paralysée par suite d'une attaque ou quelque chose comme ça. Mais ça ne l'empêchait pas d'être rapide comme un serpent. Il était en sous-vêtements et son arme était rangée dans l'une de ses bottes, au pied de son galtas. Il s'en est emparé et s'est tourné vers nous. Steven l'a abattu, mais le vieux briscard a eu le temps de tirer. La balle s'est perdue, sauf que...
Peavy, qui devait en ce temps-là être aussi jeune que ses deux auditeurs captivés, ouvrit le coffret que je venais de lui donner, en contempla le contenu d'un air songeur, puis me fixa des yeux. Un sourire nostalgique adoucissait à nouveau ses traits.
« Avez-vous jamais remarqué une cicatrice sur le bras de votre père, Roland? Ici même ?»
Il toucha un point situé juste au-dessus de la saignée du coude. Le corps de mon père était une carte de cicatrices, mais j'en connaissais tous les points remarquables. Au-dessus de la saignée du coude, il arborait une sorte de fossette à peu près identique à celle que dissimulait mal l'épaisse moustache du shérif Peavy.
La dernière balle de Pacro a frappé la paroi au-dessus du poteau où était attachée sa victime. Et puis elle a ricoché.
Il me présenta l'intérieur du coffret. Il s'y trouvait une balle de gros calibre, une balle écrasée par l'impact.
« J'ai extrait cette balle du bras de votre père avec mon couteau de chasse, et je la lui ai donnée. Il m'a remercié et m'a dit qu'un jour elle serait à moi, et aujourd'hui la voilà. Le cas est une roue, ça y déchaîne. »
« Avez-vous jamais raconté cette histoire auparavant ? » demandai-je. Elle m'était inconnue.
Ai-je dit à quelqu'un que j'avais délogé une balle des chairs du descendant d'Arthur, l'aîné des aînés? Non, jamais. Qui m'aurait cru?
Moi, je vous crois, et je vous remercie. Cette balle aurait pu l'empoisonner.
Non, non, fit Peavy en gloussant. Pas lui. Le sang de l'aile est trop fort, et si j'avais été blessé ou trop froussard pour l'opérer, il s'en serait lui-même chargé. Quoi qu'il en soit, une fois la bande des crocs anéantie, il m'en a attribué tout le mérite ou presque. Et c'est alors que je suis devenu shérif. Mais je ne le resterai plus très longtemps. Je vais prendre ma retraite. Cette histoire de garou m'a achevé. J'ai vu assez de sang et je n'ai aucun goût pour le mystère.
Qui va vous remplacer ? Demandai-je. Cette question parut le surprendre.
« Personne, sans doute. Les mines seront à nouveau épuisées dans quelques années, pour de bon cette fois, et les quelques voies ferrées qui subsistent encore ne tiendront guère le coup. Cela signifiera la fin de Debaria, une jolie petite ville du temps de votre grand-père. La volière sacrée que vous avez dû voir en route perdurera sans doute un peu, mais il n'y aura rien d'autre. »
Jamie avait l'air inquiet.
« Et en attendant ?»
Que les ranchers, les vagabonds, les maquereaux et les joueurs aillent au diable, chacun suivant sa route. Moi, je suivrai la mienne, du moins pour un temps. Mais je ne raccrocherai pas tant que cette affaire ne sera pas réglée, d'une façon ou d'une autre. »
Le garou a attaqué l'une des femmes de sérénité, dis-je. Elle est grièvement défigurée.
« Vous êtes passé par là-bas, hein ?»
Les femmes sont terrorisées. Réflexion faite, j'avais oublié un poignard fixé à un mollet aussi épais que le tronc d'un jeune bouleau. Hormis la mère supérieure, bien entendu. Il gloussa.
« Et Verline, elle cracherait à la gueule du diable, celle-là. Et s'il l'emportait à Nice, en moins d'un mois, c'est elle qui commanderait. »
« Avez-vous une idée de l'identité de ce garou quand il prend forme humaine ?» demandai-je. « Si oui, dites-le-nous, je vous prie. Car ainsi que mon père l'a indiqué à votre shérif Anderson, ceci n'est pas notre domaine. »
« Je ne peux pas vous donner de nom, si c'est ce que vous pensez, mais je puis sans doute vous donner quelque chose. Suivez-moi. »
Passant sous une voûte située derrière son bureau, il nous conduisit dans la prison, une vaste salle en forme de T. Je comptais 8 grandes cellules le long du couloir central et une douzaine de petites dans le couloir transversal. Elles étaient toutes vides à l'exception de l'une de ces dernières, où un ivrogne ronflait doucement sur sa paillasse. La porte de sa geôle n'était pas fermée.
« Il n'y a pas si longtemps, toutes ces cellules étaient pleines le vendredi et le samedi. » Rempli de journaliers et de cow-boys bourrés, si vous voyez ce que je veux dire. À présent, la plupart des gens ne sortent plus le soir. Même pas le vendredi et le samedi. Les cow-boys restent dans leur dortoir, les journaliers dans leur chambre. Personne n'a envie de croiser le garou en rentrant se coucher.
« Et les mineurs ?» demanda Jamie. « Il vous arrive d'en enfermer aussi ?»
« Pas souvent, car ils ont leur propre saloon à Little Debaria, deux véritables bouges. Quand les putains des joyeux compagnons du coup de poisse ou du pari loupé sont trop vieilles ou trop malades pour attirer le chaland, elles vont finir à Little Debaria. Lorsqu'ils sont bourrés au vitriol blanc, les salés se fichent de savoir si une pute a encore son nez. »«
Charmant, » marmonna Jamie.
Pivi ouvrit l'une des grandes cellules.
« Entrez, garçon. Je n'ai pas de papier, mais j'ai de la craie, et voilà un joli mur bien plat. Sans compter qu'on est entre nous tant que Sam le Salé dormira à point fermé, et en règle générale, il n'émerge qu'au coucher du soleil. »
Il pêcha dans son pantalon de toile une craie de belle taille et dessina sur le mur ce qui ressemblait à une grande case surmontée d'une ligne brisée. On aurait dit une rangée de V renversée.
« Ceci, c'est des Baria. Ici, la voie ferrée que vous avez dû emprunter. »
Il traça une série de hachures et c'est alors que je me rappelais le mécano et le vieux serviteur. « Titeuf a déraillé, » dis-je. « Vous pouvez envoyer une équipe d'ouvriers pour le remettre d'aplomb. Nous avons de l'argent pour les payer, et Jamie et moi serions ravis de leur donner un coup de main. »«
Pas aujourd'hui, »
répondit Pivi d'un air absent en étudiant sa carte.
« Le mécano est toujours sur place, hein ?»«
Oui, ainsi qu'un autre homme. »«
Je leur enverrai Kellyn et Vicafrey avec une buca. » Et Kellyn est le meilleur de mes adjoints, et les trois autres sont des minables, et Vika et son fils. Ils les auront récupérés et ramenés ici avant la nuit tombée. Rien de presse, vu que les journées sont fort longues à cette époque de l'année. Maintenant, faites bien attention, garçon. Voici la voie ferrée et voici Sérénité, là où cette pauvre jeune fille s'est fait attaquer. Et ceci, c'est la grande route. »
Il dessina une case pour figurer Sérénité, la marqua de la lettre X. Puis, un peu plus au nord, non loin de la ligne brisée, il porta un autre X.
C'est ici qu'a été tué Yon Curry, le berger.
Un peu plus à gauche, mais au même niveau, c'est-à-dire sous la ligne brisée, il traça un nouveau X.
« L'affaire Malora, 7 morts. »
Un peu plus à gauche et un peu plus haut, un autre X.
« La ferme Timbersmith, dans le pur d'en haut, 9 morts. C'est là que nous avons trouvé la tête d'un garçonnet fiché sur un poteau, avec des empreintes tout autour. »«
Des empreintes de loup ?» demandai-je. Il fit non de la tête.
« Non, on aurait plutôt dit un félin, du moins au début. » Quand on a suivi la piste, on a cru voir des sabots. Et pour finir,
il nous jeta un regard sombre.
Des empreintes de pieds. Très grandes, tout d'abord, comme laissées par un géant, puis de plus en plus petites, des empreintes d'hommes. De toute façon, on les a perdues sur la Lyosse. Peut-être que votre père aurait mieux fait, Saïe.
Il continua de dessiner sa carte et, cela fait, s'écarta du mur pour nous la montrer.
« Les gars de votre genre sont censés être malins, me dit-on. Qu'est-ce que vous pouvez conclure de ceci ?»
Jamy s'avança entre les paillasses. Cette cellule était conçue pour abriter plusieurs prisonniers, sans doute des poivreaux en mal de dégrisement, et passa l'index sur la ligne brisée en haut de la carte, l'effaçant en partie. « Est-ce que toutes les maisons à sel se trouvent par là, dans ces collines ?»
« Oui, là, on les appelle les roches à sel. »
« Où se trouve Little Debaria ?» Pivi dessina une case pour figurer la ville des mineurs. Elle était proche du X marquant l'endroit où le joueur et la femme s'étaient fait attaquer, car c'était la ville qu'ils souhaitaient rejoindre. Jamy examina la carte quelques instants, puis opina du chef.
« J'ai l'impression que le garou est l'un de vos mineurs. » C'est aussi votre avis? Si fait, c'est un salé, même s'il a fait des victimes parmi ses camarades. Ça se tient, si tant est que quelque chose se tienne dans cette histoire de fou. La nouvelle couche est très profonde, bien plus que la précédente, et tout le monde sait qu'il y a des démons au fond de la terre. Peut-être que l'un des mineurs en a réveillé un et qu'il a décidé de lui jouer un sale tour.
« Les profondeurs recèlent aussi des vestiges des grands anciens, dis-je. Ils ne sont pas tous dangereux, mais certains sont redoutables. C'est peut-être l'un de ces... Comment les appelle-t-on, Jamy ?»«
Des artifacts. »«
C'est ça. C'est peut-être l'un d'eux le responsable. Si nous réussissons à le capturer vivant, le coupable pourra sans doute nous le dire. »«
Il y a peu de chance, » gronda Pivi.
« Je n'étais pas de cet avis. Il suffisait que nous parvenions à l'identifier et à le capturer en plein jour. Combien de salés travaillent dans ces mines ?» demandai-je.
« Beaucoup moins qu'autrefois, vu qu'il n'y a qu'une seule couche, vous comprenez. Pas plus de 200, dirais-je. »
Je croisai le regard de Jamy et perçus dans ses yeux une lueur amusée.
« Ne t'inquiète pas, Roland. « Je suis sûr que nous les aurons tous interrogés avant la moisson, si on ne traîne pas. »
Il exagérait, mais nous risquions néanmoins de perdre plusieurs semaines. Même si nous interrogions le garou, il pourrait échapper à notre vigilance soit parce que c'était un fieffé menteur, soit parce qu'il ne se sentait pas coupable. Peut-être que le jour venu, il oubliait les crimes qu'il avait commis dans la nuit. Je regrettais l'absence de Cuthbert, qui avait le pouvoir de percevoir des liens entre des éléments apparemment disparates, ainsi que celle d'Alain, qui avait celui de sonder les esprits. Mais Jamy n'avait pas à rougir. Après tout, il avait vu tout de suite ce que j'avais sous le nez et n'avait pas remarqué. Il y avait un point sur lequel j'étais en parfait accord avec le shérif Hugh Peavy. Je détestais les mystères. Cela n'a pas changé depuis ce temps-là. Je ne suis pas doué pour les résoudre. Mon esprit n'est pas ainsi fait. De retour dans le bureau, je demandai « J'aimerais vous poser quelques questions, shérif. Premièrement, nous ouvrirez-vous votre cœur comme nous vous ouvrons le nôtre? Deuxièmement... »«
Deuxièmement, vais-je vous considérer pour ce que vous êtes et accepter ce que vous faites ?» Troisièmement, est-ce que je vous demande assistance et secours? Le shérif Peavy vous répond « Ouais, oui et oui ». Maintenant, pour l'amour de Dieu, mettez-vous à cogiter, garçon, car ça fait 15 jours que ce monstre s'est pointé à Sérénité et il n'a pas eu droit à un repas complet. Il ne tardera pas à ressortir de son trou.
Il ne rôde que la nuit, dit Jamie. Vous en êtes bien sûr?
Oui.
Est-ce que la lune a un effet sur lui? Demandai-je. D'après le conseiller de mon père, qui est aussi un de nos instructeurs, certaines vieilles légendes affirment
« Je connais ces légendes, Saïe, mais elles se trompent. » Du moins en ce qui concerne cette créature. Il lui est arrivé de frapper pendant la pleine lune, lorsqu'elle est apparue à Sérénité, parée d'écailles comme un alligator des longs marais de sel. Et c'était la lune du colporteur. Et quand elle a attaqué Timber Smith, c'était à la nouvelle lune. J'aurais bien aimé vous répondre par l'affirmative, mais je ne le puis. Et ce que j'aimerais, c'est boucler cette affaire avant de ramasser les tripes d'une autre victime ou de cueillir la tête d'un autre gamin sur un poteau. On vous a envoyé ici pour nous aider, et j'espère bien que vous en êtes capable, mais permettez-moi d'en douter.
Lorsque je demandais à Peavy s'il y avait un hôtel ou une pension convenable à des Baria, il se mit à glousser.
La dernière pension en activité, c'était celle de la veuve Braillet. Il y a 2 ans, un garçon d'écurie ivre a tenté de la violer dans ses propres toilettes, pendant qu'elle faisait ses besoins. Mais elle n'était pas née de la dernière pluie. Elle avait repéré son manège et planqué un poignard sous son tablier. Elle lui a tranché la gorge, et sans sourciller. Bodéane Lacorde, qui faisait office de juge de paix avant de partir élever des chevaux dans le croissant, n'a mis que 5 minutes à conclure qu'elle avait agi en état de légitime défense. Mais cette brave dame avait décidé qu'elle en avait soupé de débaria, et elle est retournée à Gilead, où elle doit encore se trouver. 2 jours après son départ, un crétin de poivreau a incendié sa pension. L'hôtel, lui, est toujours debout, l'hôtel Bellevue. La vue est tout sauf belle, jeunes gens, et les lits grouillent de punaises aussi grosses qu'un œil de crapaud. Si je devais y dormir, je mettrais d'abord l'armure d'Arthur Held.
C'est ainsi que nous avons passé notre première nuit à Débaria dans la grande cellule de dégrisement, sous la carte que Peavy avait dessinée à la craie. Comme il avait relâché Sam le Salé, nous avions la prison pour nous. Au dehors soufflait un vent violent, venu de l'ouest et du désert alcalin. En l'entendant gémir dans la charpente, je repensais à une histoire que me racontait ma mère quand j'étais tout petit. L'histoire de Tim Bravecoeur, de son méchant beau-père et du coup de givre que Tim avait dû affronter dans la grande forêt, au nord de la Nouvelle-Canaan. Un lieu inexploré que l'on appelait aussi la forêt sans fin. Penser à ce petit garçon tout seul dans les bois me glaçait toujours le cœur, mais penser à son courage me le réchauffait aussitôt. Les histoires qu'on écoute durant l'enfance, on s'en souvient toute sa vie. Après qu'une bourrasque particulièrement forte et le vent soufflant sur des barrières était chaud, rien à voir avec un coup de givre, eut frappé le mur de la prison et projeté de la poussière alcaline à travers les grilles, Jamie prit la parole. Il était rare qu'il entame une conversation.
« Je déteste ce bruit, Roland. Il va m'empêcher de dormir cette nuit. »
Moi, je l'adorais. Le bruit du vent m'a toujours évoqué les lieux lointains et les temps anciens. Quoique, je le confesse, j'aurais pu me passer de la poussière. « Comment allons-nous capturer cette créature, Jamie? J'espère que t'as une idée parce que je sèche. »«
Nous devons interroger les mineurs. C'est par là qu'il faut commencer. L'un d'eux a peut-être vu un de ses camarades regagner discrètement sa couche encore maculée de sang et tout nu par-dessus le marché. » Car il ne peut pas rentrer habillé, à moins de s'être dévêtu avant d'aller rôder.
Voilà qui m'a rendu espoir. Si notre homme avait conscience de ses actes, peut-être ôtait-il ses vêtements en sentant venir la crise, pour les planquer et les récupérer ensuite, une fois accompli son forfait. Mais s'il ne savait rien, c'était un tout petit fil que je tenais là. Mais parfois, si l'on veille à ne pas le casser, en tirant sur un petit fil, on peut défaire tout un vêtement.
Bonne nuit, Roland.
Bonne nuit, Jamie. Je fermais les yeux et pensais à ma mère. J'ai souvent pensé à elle cette année-là. Mais pour une fois, je ne la revis pas à l'article de la mort. Mais telle qu'elle était lors de mon enfance, lorsqu'elle s'asseyait près de mon lit dans la chambre aux vitraux et me faisait la lecture.
« Regarde, Roland,
disait-elle.
Voilà que les bafous bafouilleux s'assoient en rang et reniflent l'air. Ils savent, n'est-ce pas ?
Oui,
disais-je.
Ils savent, les bafouilleux.
Et que savent-ils ?
Demandait la femme que je tuerai un jour.
Que savent-ils, chérie de mon cœur ?
Ils savent que le coup de givre approche.
Mes paupières s'alourdissaient, et quelques minutes plus tard, la musique de sa voix m'apportait le sommeil, tout comme celle du vent violent en cette nuit.